Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on vous parle d'un projet extraordinaire, Cocorolingua. Nathalie Leslin a créé cette solution en ligne qui relie l'émotionnel et l'apprentissage des langues. À l'aide de vidéos enregistrées avec des enfants anglophones, les enfants bénéficient d'un apprentissage de l'anglais tourné sur le cœur et l'ouverture du monde, fortement inspiré par la pédagogie Montessori. Nathalie nous partage dans cet entretien comment un accident de la vie lui a fait changer ses perspectives professionnelles et surtout la magie qui peut être opérée au niveau du cerveau pour développer des capacités d'apprentissage exceptionnelles. Cocorolingua est déjà utilisé par plus de 50 000 enfants dans le monde entier. Et ce succès est amplement mérité. On vous invite donc vraiment à tester cet outil avec vos enfants. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nous sommes ravis d'échanger avec vous aujourd'hui, surtout pour parler d'un sujet qui nous passionne, qui est l'apprentissage des langues. Donc avant de démarrer sur ce sujet, on a vu que vous étiez récemment intéressée à l'éducation. Et on aurait aimé savoir pourquoi et comment cela s'est intégré à votre parcours professionnel.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'éducation, je pense que quand je retrace un petit peu ma vie, ça a commencé il y a longtemps, puisque quand j'étais petite, je jouais avec mes poupées et j'étais maîtresse d'école. Et finalement, j'ai suivi un chemin totalement différent en entreprise. Et c'est vrai qu'avec la naissance de nos deux enfants, je me suis réintéressée de près à ce sujet. Ils ont été notamment dans des écoles Montessori bilingues, puisque l'exposition aux langues était vraiment importante pour moi. Et j'ai découvert à l'occasion cette approche Montessori à laquelle je me suis particulièrement intéressée. Donc, je me suis, on va dire, formée et auto-formée au niveau... Voilà, sur l'approche Montessori, et c'est vraiment quand j'ai eu un accident de la vie qui m'a fait dire que je pouvais contribuer autrement que dans des grandes entreprises, que je me suis dit, mais en fait, c'est là qu'elle est ma raison d'être, et c'est là que j'ai envie de contribuer en réalité. C'est ce qui m'anime à l'intérieur de moi, c'est que l'éducation pour moi, c'est comme le disait Nelson Mandela, c'est vraiment, c'est l'arme ou l'outil plutôt qui peut vraiment changer le monde, et si je peux y contribuer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce sera déjà magnifique pour moi.
Quel âge ont vos enfants aujourd'hui ?
Alors, ils ont 10 ans et 13 ans.
Très bien. Et alors, quelle a été votre expérience dans votre jeunesse de l'apprentissage des langues ou même l'expérience de vos enfants quand ils étaient petits de l'apprentissage des langues ?
Oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui avait appris l'anglais de façon assez intensive, qui se destinait à être enseignante d'anglais, puis finalement elle a fait autre chose, mais c'était ce qu'elle souhaitait faire au départ. Et donc très jeune, bah 12 ans, je partais en Angleterre pendant 10-15 jours, donc on a été très vite envoyés dans des familles anglaises pour apprendre, et ça a été indispensable puisqu'effectivement à l'école, c'était enseigné comme matière, comme d'autres matières. Il n'y avait pas vraiment toute la valeur de la langue étrangère qui est la connexion à l'autre, l'ouverture du monde. Et c'était vraiment une matière de plus. Donc, j'ai eu la chance, que mes parents nous envoient très vite à l'étranger. Et ensuite, pour nos enfants, c'est ce que j'ai essayé de répliquer. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, c'est incroyable ce potentiel qu'ont les jeunes enfants pour apprendre les langues. Et du coup, très vite, quand j'ai entendu parler d'une école Montessori bilingue qui était pas très loin chez nous, ça a été le choix immédiat qui commence leur scolarité dans cet établissement.
Et alors, selon vous, quelles étaient les limites du système éducatif traditionnel en ce qui concerne l'apprentissage des langues ?
Alors, effectivement, il y a des limites. Alors déjà, je reconnais l'engagement des enseignants parce que c'est vrai que c'est un travail énorme qui est fait par les enseignants qui eux-mêmes n'ont pas été ou rarement été formés à l'enseignement des langues. Nous, ce qu'on rencontre au quotidien, c'est vraiment des enseignants qui s'engagent, mais on sait aussi qu'il y a énormément d'enseignants qui sont démunis. Parce que ça, il n'y a pas vraiment de nouvelles approches. Les approches sont vraiment traditionnelles. C'est-à-dire que si on regarde ce qui est fait aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé de ce qui était fait il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire que on a des livres de vocabulaire où on apprend du vocabulaire avec le sens en français, le sens en anglais. Et ensuite, on va écouter un petit peu d'anglais avec des casques, et dans le meilleur des cas, et puis voilà, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un gâchis énorme dans le potentiel, dans nourrir ce potentiel du jeune enfant en langue.
Et parce que selon vous, comment cette langue devrait-elle être enseignée dans tout système éducatif ?
Alors, c'est difficile, c'est très difficile parce que pour moi, la langue, c'est un outil de connexion à l'autre, c'est un outil de partage, d'échange, de découverte. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile de le faire comme ça dans un système scolaire. Mais pour moi, ça passe par le lien, ça passe par la création d'un lien, d'une relation humaine, l'éveil de la curiosité. Donc oui, c'est au centre, je mettrais la création de liens et de vivre la langue comme une relation, en fait, vraiment à l'autre, comme une expérience d'échange et pas juste du vocabulaire sur des cahiers, quoi.
Et c'est ainsi que vous est venue l'idée du projet Kokoro Lingua, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, suite à cet accident de la vie, où je me suis dit que j'aurais plus à contribuer plutôt qu'en entreprise, dans quelque chose qui m'animait vraiment. C'est à ce moment-là qu'en fait, il y a eu vraiment un carrefour dans ma vie où il y avait, c'était un double traumatisme crânien. Donc, j'ai relu page par page sur le cerveau pour essayer de savoir comment tout ça allait se reconnecter. Et puis en parallèle, j'avais vraiment cet engagement pour l'éducation de mes enfants. J'avais tellement envie de contribuer à un monde où il y ait plus d'échanges, de partage. Donc, c'est comme ça qu'il est né le projet Kokoro. C'est qu'à un moment, je me suis dit, ma vie en entreprise maintenant, ok, je suis très reconnaissante de toutes ces années parce que ça m'a permis d'apprendre énormément et aujourd'hui je peux mettre tout ce que j'ai appris en entreprise au service de ce projet. Et pour moi, la raison d'être, ça a été vraiment la phrase qui m'est venue, ça a été rapprocher les cœurs d'enfants autour de leur lumière et de leur diversité. Et en fait, ça a été vraiment ça, la phrase de départ qui est venue à l'intérieur de moi. Et ensuite, je me suis dit, mais comment je peux faire ça, moi ? Qu'est-ce qui peut... comment je peux faire concrètement ? Et là, en fait, il y a eu un peu mon cheminement de vie qui est arrivé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, je suis partie au Japon pour apprendre le japonais. J'ai découvert le japonais. J'ai vécu des expériences incroyables en japonais et je m'étais promis qu'un jour, j'aurais envie que d'autres personnes puissent vivre ça, vivre cette intensité dans la relation parce qu'on connaît ou on s'approche de la langue de l'autre. Et après, il y avait le cheminement Montessori avec mes enfants, tout ce que j'ai découvert sur les neurosciences. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est là qu'elle est ma valeur ajoutée. C'est qu'il y a quelque chose que je peux faire au niveau des langues pour essayer de rapprocher les enfants de leur potentiel et d'essayer de se connecter les uns aux autres sans avoir peur. Donc, c'est comme ça que c'est né Cocorolingua. C'est un cheminement très, très intérieur, si j'ose dire.
C'est génial. Et alors, comment justement faire apprendre les langues aux enfants sans qu'ils aient à voyager à l'autre bout du monde ?
Alors ben là, ça a été aussi un grand cheminement parce que au départ, on m'a dit mais en fait, tu pourrais faire ça sur Neuchâtel où j'habite maintenant en Suisse. Tu pourrais organiser des ateliers, etc. Et je me disais mais moi, j'ai envie de pouvoir accompagner ou aider. Ce serait bien, bien arrogant et bien ambitieux, mais proposer quelque chose au plus d'enfants possible. J'ai plus envie que, comme en Suisse, par exemple, l'éducation Montessori en milieu bilingue, c'est des montants qui sont très importants pour les parents. Du coup, c'est réservé à très peu de personnes. Et j'avais envie que ça puisse bénéficier à un maximum d'enfants et partout dans le monde. Et à un moment, je me suis dit, mais alors, il va falloir que je passe par de l'émotionnel, puisque c'était comme ça que j'avais envie de faire. Mais il va falloir que je passe par la vidéo, alors que j'étais pas favorable aux écrans. Et du coup, il y a ce cheminement. Et finalement, je l'ai fait par vidéo, mais je l'ai fait de ma propre façon. C'est-à-dire que j'ai voulu intégrer cet émotionnel, intégrer ce lien humain par vidéo. Et du coup, effectivement, ce sont des vidéos avec des enfants qui font découvrir leur langue maternelle, des enfants natifs, anglophones ou francophones ou ensuite dans d'autres langues, qui font découvrir leur langue maternelle aux enfants qui apprennent.
C'est génial. Et alors concrètement, comment ça se passe dans une salle de classe? Les professeurs montrent ces vidéos aux enfants?
Oui. Alors en fait, les enseignants, ça se passe aussi bien en famille qu'à l'école, les enseignants vont montrer la vidéo 3 à 5 fois par semaine aux enfants. Donc ce sont des vidéos qui durent 10 à 15 minutes. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on rentre dans de la répétition, puisque même le Conseil scientifique de l'éducation nationale a bien rappelé à quel point, pour l'enseignement des langues, 45 minutes par semaine, c'est bien, mais ça ne permet pas à l'enfant d'assimiler. La répétition, elle est essentielle. Donc nous, on fonctionne sous forme de courtes vidéos qui durent 10 à 15 minutes, et l'enseignant va présenter la vidéo aux enfants 3 à 5 fois par semaine, donc on aura la répétition. Et ce qui permet à un enseignant qui n'est pas du tout à l'aise en anglais d'utiliser le programme, d'exposer les enfants à l'anglais, même s'il ne réinvestit pas ses notions ensuite, mais un enseignant qui est suffisamment à l'aise en anglais, il va pouvoir organiser des petites activités pour réactiver dans la vraie vie, si j'ose dire, ce que les enfants ont découvert dans les vidéos.
Et comment vous les avez trouvés, ces enfants, dans les vidéos ?
Alors, en fait, au tout début du programme, il y avait ce rêve qui était vraiment de rendre la découverte des langues étrangères accessible au plus grand nombre d'enfants possible. Il y avait ce rêve et je me suis dit, comment je vais faire? Et en fait, j'ai contacté, parce que j'ai la chance finalement maintenant de vivre en Suisse, où il y a énormément d'étrangers comme moi qui suis française. Donc, il y a énormément d'étrangers qui viennent. Et du coup, j'ai été en contact avec des familles américaines, britanniques, australiennes, néo-zélandaises qui venaient d'arriver en Suisse. Et je les ai contactés, je leur ai dit, j'ai un rêve, ce serait que des enfants anglophones puissent enseigner leur langue maternelle. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je pourrais rencontrer vos enfants si vous êtes partant? Et ça a commencé comme ça. Et les 6 familles anglophones avec qui j'ai démarré cette histoire, les premiers pilotes, elles sont toujours là aujourd'hui parce que leurs enfants ont énormément de plaisir à faire découvrir leur langue maternelle. Donc c'est vrai
super.
Que les enfants... sont pas des acteurs. Je voulais absolument pas que ce soit des acteurs. Je voulais avoir cette spontanéité, ce naturel de l'enfant qui fait que parfois il y a des blagues, parfois il y a des ratés et c'est juste la vraie vie en fait.
Mmh. Vous avez combien de vidéos à disposition maintenant ?
Alors on en a bientôt 100. Je suis juste en train de faire le calcul. Oui, même bientôt plus qu'une centaine en fait. Parce qu'on a l'année 1, l'année 2 en anglais. On a tourné également pour l'année 3. Donc il y a toute une partie qui est en montage. Et ensuite on a démarré également en français.
C'est super. Et alors pourquoi est-ce que ça s'appelle Cocoro ?
Alors Cocoro, ça veut dire le cœur ou l'âme en japonais. Et c'est aussi le nom d'un roman japonais que j'ai lu quand j'avais 16 ans en Bretagne. Ça s'appelle Kokoro ou Le pauvre cœur des hommes de Natsume Soseki. Et quand j'ai lu ce roman japonais, ça a été vraiment un choc culturel. Je me suis dit, mais c'est pas possible que sur cette même planète, il y ait des personnes aussi différentes. Et c'est à ce moment-là, quand j'avais 16 ans, que j'ai commencé à économiser, que j'ai dit à mes parents, je vais faire mes études, j'ai mes 4 ans d'études, je sais déjà ce que j'ai envie de faire, mais quand j'aurai fini mes études, je voudrais partir. Je voudrais aller découvrir ce pays, apprendre un peu la langue. Donc j'avais économisé pour 6 mois, puis finalement je suis restée 5 ans là-bas. Donc ça vient de là, Popolo.
Et alors, comment est-ce que vous transmettez justement ces valeurs du cœur et de l'âme à travers votre pédagogie ?
Alors, l'idée, c'est de proposer un environnement où, déjà dans le cheminement de la vidéo, on a une connexion très forte à la nature, une connexion très forte à la notion de lien entre les enfants, de solidarité, d'universalité. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans nos vidéos. Et ensuite, on va avoir cette connexion au corps, à soi-même, au potentiel de l'enfant. Donc, on va commencer par faire des mouvements, de la gymnastique, de boire de l'eau pour que l'enfant soit vraiment centré sur lui-même. Et ensuite, une fois qu'il sera bien connecté à lui-même et on l'espère à son potentiel, on va ensuite dans la deuxième phase de la vidéo, écouter ces enfants anglophones. Et quand les enfants anglophones s'expriment, pour nous, le plus important, comme je vous le disais un petit peu avant, c'est cette idée de naturel, de spontanéité, d'accueillir l'enfant tel qu'il est et le laisser s'exprimer. Et puis, nous, bien sûr, on a un cheminement pédagogique avec notre équipe d'éducateurs. Donc, on a un cheminement pédagogique qui doit être respecté, mais en même temps, on laisse un maximum de place à cette création d'émotionnel qui va ensuite permettre à l'enfant d'apprendre. On dit souvent avec le cœur et pas par cœur. C'est vraiment l'envie d'apprendre qui est au cœur du programme.
Et vous auriez pas une petite anecdote amusante d'un enfant, d'une vidéo qui s'est pas du tout déroulée comme vous l'aviez espéré, ou vous aviez une super bonne surprise?
Oui, alors ça arrive régulièrement en fait, parce que sur les tournages, nous on a notre script, c'est-à-dire qu'on a notre script d'adulte avec nos têtes d'adulte et notre mental d'adulte, et donc on a le parcours pédagogique, etc. Et très régulièrement sur la vidéo, il y a un enfant qui dit « Attends, tu crois pas qu'on devrait essayer de faire comme ça ?» et du coup on le laisse faire et puis c'est parti en fait. Donc ça c'est, il y a vraiment toujours cette magie-là qu'on laisse au maximum arriver, et puis après, voilà, ça arrive aussi... quand ils font la cuisine, tout à coup, il y a de la farine qui tombe partout. Quand ils sont en train de parler, il y a un poster derrière qui s'écroule. Donc, il y a toujours ces anecdotes de la vraie vie et qu'on essaye de garder au maximum. Donc, c'est aussi pour ça que maintenant, on a rajouté un petit best-of à la fin où on voit des petits moments de vraie vie qu'on n'a pas pu laisser dans la vidéo parce qu'au niveau parcours pédagogique, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais en revanche, on a envie que les enfants y voient ce qui se passe derrière aussi et que ce sont des enfants comme eux, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est pas de la fiction.
Oui, tout à fait.
Et alors, vous êtes beaucoup inspiré de la pédagogie Montessori. Comment est-ce que cela se transparaît dans les vidéos, justement ?
Oui, alors il y a plusieurs choses. Après, on nous dit, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment montessorien. Alors, effectivement, on passe par les écrans. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas des montessoriens purs et on ne s'en revendique pas du tout. Hein. On dit simplement que pour nous, Maria Montessori, c'est une source d'inspiration extraordinaire et que pour moi, elle a naturellement été là dès le départ de Kokoro. C'est-à-dire que j'ai été obligée de passer par les écrans pour pouvoir aller dans le sens de ce rêve de proposer une solution pour un maximum d'enfants. Mais du coup, j'ai pas fait des dessins animés. Bien sûr, ça aurait été beaucoup moins cher, beaucoup plus facile de faire des dessins animés, mais je voulais cette connexion au réel que Maria Montessori, elle mettait toujours en avant. Donc, j'avais vraiment envie que les enfants, ils puissent se reconnaître et ensuite pouvoir le mettre en pratique. Donc cette connexion au réel, à la vraie vie, à des images plutôt qu'à des dessins animés, je veux dire, ça pour moi c'était un des points. Ensuite, c'est vrai qu'il y a la notion des périodes sensibles, donc ça on en parle beaucoup dans l'approche Montessori, où à un moment l'enfant, il va avoir envie d'apprendre quelque chose. Et ça c'est vrai qu'en tant que parent ou éducateur, tout le monde l'a vécu à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que tout à coup, moi je vais parler plus en tant que maman, tout à coup, mon enfant, il m'a dit « Maman, je voudrais absolument apprendre l'arabe ». Et là, on se dit « Waouh, quelle chance ! Il est en train d'exprimer une envie d'apprendre et comment je vais nourrir cette envie d'apprendre ?» Donc, c'est aussi ça l'approche de Kokoro, c'est de se dire « L'enfant, on va essayer de lui proposer un panier comme un panier de fruits bio et puis on va lui dire « Bah tiens, voilà, on a fait ça avec tout notre cœur et prends tout ce qui t'intéresse ». Donc il y a aussi ces périodes sensibles. Après, il y a un point qui était vraiment important pour moi au départ. C'est pour ça que, au départ, je n'étais partie que sur 2 ans. Je m'étais dit, j'aimerais bien qu'on puisse offrir à l'enfant la possibilité de découvrir l'anglais et au maximum d'apprendre par lui-même. C'est aussi pour ça, il y a cet apprentissage de façon autonome. C'est aussi pour ça qu'on a aucune traduction dans le programme, nulle part, sauf pour les adultes. On a créé des scripts pour les parents et les enseignants parce que certains adultes, au bout de la 4e leçon, ils disaient j'ai pas compris ce qu'a dit l'enfant, puis je sais pas traduire, je me sens pas tranquille. Donc c'est à ce moment-là qu'on a mis des scripts avec les traductions, mais sinon on n'avait aucune traduction parce que l'idée c'est de dire à l'enfant apprends par toi-même, on va créer le contexte, on va créer la répétition. Et grâce à ça, tu vas comprendre par toi-même. Et si tu comprends pas la première fois, c'est pas grave. Dans la vraie vie, on comprend pas toujours tout de suite. Donc, mais petit à petit, fais-toi confiance et tu vas comprendre. Et nous, en tant qu'adultes, on est plus là pour l'aider, l'accompagner, nourrir ce potentiel, mais pas pour lui traduire. Donc ça, c'est une question qui revient souvent de la part des adultes, c'est de dire, mais pourquoi vous voulez pas traduire? On a plutôt, nous, envie d'encourager cette capacité de l'enfant à comprendre par lui-même. C'est comme si, en quelque sorte, il allait apprendre une deuxième langue maternelle où personne n'était là pour lui traduire. Il a juste appris par la répétition et le contexte.
C'est super. Sylvie, tu veux peut-être rajouter quelque chose avec ta casquette montessorienne par rapport à ce que Nathalie nous a partagé ?
En fait, moi, j'aime beaucoup hein, le projet de Nathalie, de Kokoro. On l'utilise dans une école et puis je connais plusieurs parents qui font l'instruction en famille, qui l'utilisent parce que justement, ils n'ont pas la possibilité de parler eux-mêmes anglais. Et vraiment, ce que je trouve ouais, très, très montessorien, c'est que l'enfant est autonome, il peut apprendre tout seul en fait. Et c'est ce qui se passe dans cette famille que je connais. Ils ont leur rendez-vous avec Kokoro et ils apprennent par eux-mêmes, en fait, tout seuls. Et ça, c'est vraiment très, très montessorien, hein, l'autonomie, l'esprit absorbant. Et en plus, il y a le mouvement. Et ça, Maria Montessori, elle a parlé beaucoup du besoin de mouvement. Et donc ça, c'est aussi très, très, très montessorien. Et vraiment, moi, j'aime énormément ce programme parce que c'est aussi les principes qu'on a développés dans nos écoles Athéna, c'est d'apprendre par l'immersion, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de traduction et qu'on l'apprend comme une langue maternelle. Et donc, l'enfant entend et entend plusieurs fois les mots et petit à petit, il absorbe. Et cette connexion aussi à la culture, quoi. Là d'où l'enfant vient vraiment, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont d'origine de ces pays-là. Et là, justement, il y a cette transmission de culture qui va avec et qui, pour moi, est encore plus importante que la langue. C'est-à-dire que l'enfant, il transmet sa culture. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de l'apprentissage des langues aussi, c'est de comprendre l'autre. Et donc, c'est pour ça que moi, il y a vraiment tous les ingrédients qui sont positifs pour l'apprentissage des langues et pour les enfants, pour accepter l'autre avec ses différences, etc. Donc, pour un monde de paix. Donc, ça va vraiment au-delà de l'apprentissage d'une langue, en fait.
Et justement, Nathalie, à ce sujet, est-ce que comment ça se passe pour le partage, justement, comme Sylvie le mentionnait, de la culture du pays ?
Alors, on le fait pour le moment par touche, c'est-à-dire que on va avoir par exemple une vidéo sur l'Australie où là on va vraiment rentrer dans la culture australienne, et sinon ça va être plutôt par touche, c'est-à-dire que on va l'avoir comme le disait Sylvie au niveau des accents, c'est-à-dire qu'on va montrer en fait, voilà, c'est cette diversité des accents, de se dire on parle tous anglais. Mais tous avec des accents différents. Il y a toujours cette notion, comme vous le disiez Sylvie, d'universalité dans le sens où finalement on est tous humains, tous ensemble, tous différents. Et voilà, on le retrouve aussi dans les accents. Et après, on va avoir des thématiques spécifiques sur la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Australie, où là on va rentrer beaucoup plus dans le détail d'une culture.
Et vous avez mentionné au début de cette interview que vous étiez beaucoup intéressé aux neurosciences. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vos apprentissages à ce sujet-là ?
Oui, alors c'est très, très humblement, hein, puisque je suis pas du tout experte ou quoi que ce soit dans le domaine. C'est vraiment parti de, on va dire, de ma chute, hein, tout simplement. Hein, c'est de se dire, à un moment, j'ai découvert ce potentiel extraordinaire du cerveau, puisque après ma chute, j'avais des problèmes au niveau visuel, j'avais des problèmes au niveau droite-gauche, je ne savais plus. Et je ne savais pas ce que j'allais pouvoir récupérer. Et là, ça a été extraordinaire de lire sur ce potentiel incroyable du cerveau et de voir que c'est potentiel pur, c'est-à-dire que tout se connecte selon nos besoins, selon nos envies. Et là, il y a j'ai développé en fait une confiance incroyable dans le cerveau de l'être humain et du coup, par ricochet, dans le cerveau de l'enfant. Et dans toutes les connexions, et c'est là que je me suis intéressée aussi à la linguistique, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y avait cette curiosité, de me dire, mais c'est incroyable ce dont on est capable. Et donc, du coup, je me suis intéressée à la linguistique, au fait que tous les linguistes sont unanimes, et on l'a tous vécu, on le sait, c'est de la connaissance universelle, c'est-à-dire que l'enfant, à sa naissance, il a le potentiel d'apprendre et de reproduire toutes les langues du monde, et selon l'endroit où il va naître, eh bien en fait, il va apprendre une langue ou l'autre. Mais si, il aurait pu, et on le sait, un enfant peut apprendre 2-3 langues en même temps, c'est pas un souci. C'est juste une question d'environnement, d'exposition, de connexion neuronale. Et à partir du moment où je me suis intéressée justement aux neurosciences, vraiment de façon très égoïste, pour me dire comment tout ça, ça va se remettre en place, et après ça s'est ouvert à la linguistique, au cerveau des enfants, comment ça fonctionne, et c'est là que c'est vraiment là que j'ai pris la conscience, on va dire, dans mon propre corps, de ce potentiel. Et c'est là que je me suis dit, à partir du moment où j'ai la connaissance de ce potentiel, c'est comme mon devoir ou ma responsabilité de faire quelque chose pour le nourrir de la façon la plus positive et bienveillante possible pour l'enfant et comme Sylvie le disait, pour la paix dans le monde, humblement pour la paix dans le monde. Voilà, ça c'était vraiment au niveau d'un point de vue personnel. Après, c'est vrai que je me suis aussi beaucoup intéressée aux recherches de Stanislas Dehaene qui a démontré que quand on apprend avec émotion et intuition, on mémorise de façon beaucoup plus puissante. Et ça, on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre, quand on apprend quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est ce contexte-là que j'avais envie de proposer aux enfants dans l'apprentissage des langues. Donc l'émotion, créer ce lien émotionnel, et l'intuition, faire confiance à ce potentiel, à cette connaissance qu'on a à l'intérieur de soi, et montrer à l'enfant qu'il est vraiment capable d'apprendre par lui-même, même les langues étrangères.
C'est super. Et j'avais une dernière question, notamment par rapport aux outils numériques. Donc, vous l'avez mentionné au début, il vous a fallu suivre un cheminement pour passer à l'utilisation des outils numériques pour Kokoro. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et notamment quel est votre point de vue justement sur l'utilisation des écrans dès le plus jeune âge ?
Oui, alors je reste, malgré Kokoro, je reste... pas du tout favorable aux écrans pour les jeunes enfants. C'est-à-dire que on le sait en fait, hein, bah ça aussi c'est démontré scientifiquement que les écrans ne sont pas un facteur de développement positif pour l'enfant. Et c'est pour ça qu'on a souhaité créer un écran qui va ouvrir l'enfant vers le monde et pas comme on voit ces enfants qui sont recroquevillés sur des tablettes avec les doigts qui s'agitent. On avait plutôt envie d'un écran où l'enfant va découvrir quelque chose qu'il va ensuite aller mettre en pratique. Donc vraiment, notre recommandation systématique, c'est de dire, ok, Kokoro, c'est juste un outil. Le plus important, c'est ce qui va se passer après, c'est ce qui va se passer ensuite. On a besoin, nous, d'exposer vos enfants à la langue de façon native pour qu'ils aient un accent parfait, de façon émotionnelle. Donc, on a toute une série de choses qui sont importantes pour nous d'un point de vue pédagogique, mais derrière, ce qui va être essentiel, c'est ce qui va se passer en dehors de l'écran. C'est quand vous allez être dans la cuisine ou dans la classe et que vous allez commencer à compter les crayons ou compter les pommes. C'est quand votre enfant, dans son bain, il va se mettre à chanter en anglais très naturellement parce que ça vient tout seul. C'est toutes ces mises en pratique qui vont être essentielles. Donc après, pour en revenir à notre relation, enfin ma relation antipersonnelle avec les écrans et du coup, par effet de miroir, la relation de Kokoro, on recommande clairement pas d'écran avant 3 ans. Donc ça, c'est... Et pourquoi ? Puisque les neurosciences sont formelles, pas d'écran avant 3 ans, zéro. Et ça, c'est vrai que souvent, quand on anime des conférences ou des webinaires et qu'il y a des parents qui ont des enfants de 2 ans et qui me demandent, je dis, mais écoutez, je suis désolée, mais je suis obligée d'être ferme. Pas d'écran avant 3 ans. Donc, je vous propose plein d'autres choses. Écoutez des CD audio, écoutez tel CD, je leur donne des références de livres audio, etc. Puis à la fin, ils me disent, mais vous êtes incroyable parce que vous pourriez très bien nous dire pour vendre votre méthode que vous, on peut commencer un peu plus tôt. Mais non, fermement, nous, on dit clairement, ben non, pas avant 3 ans. Vous pouvez nourrir votre enfant autrement, avec des CD, avec des comptines, avec plein d'autres choses. Mais pour le bien de votre enfant, on recommande ça, voilà. Et puis après, c'est vrai que dans l'accompagnement Kokoro, ce qu'on dit souvent, c'est de 3 à 6 ans, c'est vraiment 15 minutes, 20 minutes par jour maximum. Et après, au-delà de 6 ans, pour les enfants qui ont vraiment très très faim d'anglais, on propose d'autres vidéos qui existent gratuitement sur le net et qui sont très bien faites à partir du moment où on a une certaine base au niveau vocabulaire et grammaire. Donc on va proposer une sélection, mais notre relation à l'écran, c'est vraiment limité au maximum.
Et l'utiliser de manière intelligente.
Exactement, oui.
Et alors, vous avez déjà obtenu de nombreuses récompenses avec votre projet. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquelles et comment est-ce que vous pensez, bien sûr, de manière très humble, expliquer ce succès ?
Oui, alors c'était des moments assez magiques parce que au tout début, on était tout petit, mais on avait un grand rêve. Et à un moment, il y a Muriel qui fait partie de l'équipe en France pour le développement de la présence dans les écoles, qui m'a dit un peu sous forme de boutade, mais pourquoi est-ce qu'on candidaterait pas au concours Lépine ? Et là, on a vraiment ri en se disant, mais non, mais le concours Lépine, c'est, oh, on n'aurait jamais le niveau, et puis c'est des ingénieurs, et puis on est, voilà, il y avait toutes les fausses croyances qui remontaient à la surface, surtout de ma part, en disant, mais en plus, je suis une femme, c'est un milieu d'hommes, et puis je suis pas ingénieure, et puis, donc voilà, il y a toutes ces excuses et ces croyances qui sont arrivées, et puis à un moment, on s'est dit, bah, allez, on essaye. Et là, ça a été déjà le choc incroyable pour nous de dire, mais on a été sélectionnés. Donc on a le droit d'aller exposer. Donc là, ça a été vraiment, pour nous, c'était un cadeau immense. Et le soir de la remise des prix, en fait, donc on a commencé par ce concours Lépine, le soir de la remise des prix, il commence par les derniers. Donc voilà, il y a les reconnaissances X, Y, et puis après, médaille de bronze, médaille d'argent. Et donc je me suis dit, bon, voilà, on était déjà tellement fiers d'avoir été présents que... Ben merci la vie, en fait. C'était vraiment cette approche-là. Et tout à coup, j'entends médaille d'or, Kokoro Lingua, avec mon nom. Et là, ça a été un choc incroyable parce que jamais j'aurais imaginé que ça puisse arriver, en fait, qu'on puisse avoir cette reconnaissance-là. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu, on s'est senti reconnu, en fait, dans notre approche, puisque pour cette médaille d'or, après, j'ai voulu me renseigner et me dire, mais comment est-ce que ça a été possible? Il y a eu quatre experts éducateurs, spécialistes en pédagogie, etc., qui sont passés sur le stand, à qui j'ai dû présenter le programme. Et donc, ils ont vraiment sélectionné cette innovation pédagogique pour être médaillée d'or. Donc ça, ça a été déjà absolument incroyable pour nous. Et ensuite, on a participé à des salons à l'international, à Londres et à Dubaï, où on a été à Londres finaliste. Et là, de nouveau, incroyable, parce que nous, c'est un projet de cœur, en fait, un projet où on a juste envie de partager, de grandir, et c'est notre seul objectif. Et là, on était finaliste au BET Awards à Londres, à côté de Lego, à côté de Microsoft. Donc là, ça a été aussi incroyable. Et ensuite, juste avant le confinement en février, on était présent à un salon à Dubaï. Et là, on a été la meilleure ressource pour le primaire, la meilleure ressource pédagogique pour le primaire.
C'est donc incroyable.
Ça a été la meilleure ressource. Donc là aussi, pour nous, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'on est dans un univers avec... On a une association, on a une start-up EdTech en parallèle et on est vraiment dans un univers qui est très orienté rentabilité, chiffre d'affaires, etc. Et moi, quand on me pose la question, je dis, mais moi, mon seul objectif, c'est des millions d'enfants. Vous me demandez mes objectifs de chiffres, mais moi, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est pouvoir contribuer, c'est tout. Donc, c'est vrai qu'il y a ce joyeux décalage parce que nous, on le prend de façon très positive, en fait. On se dit, ben voilà, ça va juste nous aider à grandir.
C'est super. Et alors, vous en êtes proche du million d'enfants ou pas?
Alors non, pas encore. Il y a encore beaucoup de travail.
Vous non, en êtes à combien, là?
Là, on est... Ben, en fait, c'est vrai que ça augmente assez vite. Donc, on est entre... Je vais dire entre 50 et 60 000. J'ai pas
c'est
les,
incroyable.
Les derniers chiffres, mais on avance bien. On est encore très loin des millions d'enfants, mais c'est pas grave. C'est petit à petit. Puis,
bien sûr.
Puis si on n'y arrive pas, c'est très bien aussi. Déjà, c'est incroyable de se dire qu'il y a à peu près 50, 60 000 enfants qui suivent le programme. C'est déjà magnifique.
C'est magnifique.
Et puis après, parce que ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'on est présent en France, mais aussi on est présent dans des orphelinats, que ce soit en Roumanie, dans une école en Thaïlande, on est au Brésil. Donc, on a une vocation de partage, puisque dès qu'il y a un abonnement souscrit, on libère automatiquement un abonnement offert pour une famille ou une école défavorisée. Et du coup, ça permet vraiment d'avancer sur ce rêve de l'éducation pour tous les enfants, sans contraintes budgétaires ou sociales.
C'est génial. C'est passionnant. On arrive à la fin de cet entretien. Moi, j'aimerais vous poser une dernière question. Quels seraient vos rêves et vos ambitions pour ce projet, en dehors des millions d'enfants touchés? Est-ce qu'il y a des choses concrètes que vous avez envie de mettre en place dans les années à venir?
Oui, alors on a plein de rêves, en fait. déjà, voilà, au départ, on l'avait développé en anglais au début pour 2 ans. Ensuite, on nous a demandé 4 ans, donc on est parti pour faire les 4 ans d'anglais. Après, en français, langue étrangère, on a été soutenu par le ministère des Affaires étrangères pour soutenir la francophonie dans le monde. Après, dans nos rêves, ce serait de le faire dans plein de langues différentes. C'est toujours des questions de budget, donc c'est aussi pour ça qu'on avance, on se développe. Dans mon rêve, en fait, l'idée, ce serait que l'enfant, il puisse choisir la langue qu'il a envie d'apprendre. Bien sûr, on sait que naturellement, à un moment ou à un autre, il serait bien qu'il apprenne l'anglais. Mais dans le rêve, c'est qu'il puisse à un moment choisir la langue. Et s'il a envie d'apprendre l'arabe ou le russe ou le chinois, ben on lui dise, bah tiens, vas-y. Et donc voilà, ça fait partie des rêves, c'est la diversité des langues. Et puis après, l'un des autres rêves, c'est de pouvoir connecter les enfants entre eux. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en train d'apprendre, bah, c'est le cas, on a des enfants qui apprennent l'anglais avec Kokoro au Japon. Qu'un enfant qui est au Japon puisse se connecter avec un enfant français, puis qu'il puisse échanger, puis se connecter les uns aux autres au-delà des frontières, en fait. Vraiment dans cette notion de partage et de solidarité.
Oh, ce serait super.
Voilà les
Ça
rêves.
Donne envie. Ce sont de très beaux rêves. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre temps. C'est vraiment un projet formidable et on était super heureuses de pouvoir le partager avec tous nos auditeurs des adultes de demain.
Merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Merci Stéphanie, merci Sylvie.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.